Extrait numéro 14, chapitre 19, les Scopsies. J'avais pour 2 ou 3 000 francs d'or français que je voulais changer contre du papier russe. Vous savez, cher lecteur, qu'il n'y a presque pas de numéraire en Russie, le pays des mines d'argent et des mines d'or, mais seulement du papier. Il y a des papiers, depuis le billet de 100 roubles jusqu'au billet d'un rouble. Je savais que chacune de mes pièces d'or valait 5 roubles. Mon étonnement fut assez grand quand mon changeur me donna non seulement mes 750 roubles, mais encore un bénéfice de 25 ou 30 francs. L'or de France était en hausse et valait 5 roubles et je ne sais combien de kopecks. Je regardais avec plus d'attention que je n'avais jamais fait jusque-là mon honnête homme de changeur, et comme il parlait tant soit peu le français, je me fis donner l'explication de ce bénéfice inattendu. Pendant qu'il parlait, je l'écoutais et je le regardais. Il avait une de ces voix claires et argentines, comme on en entend parfois à la chapelle Sixtine. Il avait la barbe rare et semée de petits bouquets. Je compris que j'avais affaire à un individu appartenant à la secte des Scopsies. Vous ne savez pas, cher lecteur, ce que c'est que la secte des Scopsies. Avez-vous un dictionnaire russe? Cherchez le verbe « skopets ». N'en avez-vous pas? Et tenez-vous à savoir ce que c'est qu'un skopets? Je vais essayer de vous le dire, quoique d'avance, je vous prévienne que ce n'est pas chose facile. Avez-vous sur un fauteuil en face de vous un bel angora au long poil qui, au lieu de courir sur les toits et de sauter d'une gouttière à l'autre à la poursuite des chattes, ne s'occupe que de manger, d'engraisser et de dormir? Il appartient à la secte des Scopsies. Avez-vous sur votre table un de ces bons citoyens du Maine chantés par Béranger, comme les bienheureux de la terre, gras, rissolé, cuit à point, à la chair exquise, à la graisse succulente, à la tête privée de l'ornement qui fait l'orgueil du coq? Il appartenait à la secte des Scopsies. Un jour, le roi Louis-Philippe enfant demandait à madame de Genlis, sa gouvernante. « Qu'est-ce que le taureau ? » « C'est le père du veau. » « Qu'est-ce que la vache ? » « C'est la mère du veau. » « Qu'est-ce que le bœuf ? » L'auteur des veillées du château hésita un instant. La définition l'embarrassait. Enfin, elle trouva la périphrase. « C'est l'oncle du veau. » « Eh bien, l'oncle du veau est de la secte des Scopsies. » Vous voilà renseigné, n'est-ce pas ? Il me reste maintenant à vous expliquer comment, jouissant de son libre arbitre, on entre de sa propre volonté dans une pareille secte. Essayons. Le mot « raskol » signifie « hérésie » en russe. On appelle les hérésiarques « raskolnik ». Les Scopsies sont « raskolniki ». Les raskolniks remontent au règne d'Alexis Mikhaïlovitch. Son favori, le patriarche Nikon, ayant traduit ou plutôt modernisé les saintes écritures, les fanatiques s'attachèrent à l'ancien texte, refusant d'admettre le nouveau. De là, une révolte. Le nouveau texte étant admis, les révoltés devinrent des hérésiarques. Les voyageurs qui ont écrit sur la Russie ont peu ou point parlé des raskolniks. Oui, mais moi, je compte vous parler de beaucoup de choses dont on ne vous a point parlé encore. Et pour commencer, si difficile que soit la chose, je vous parlerai des Scopsies, qui sont une branche de l'hérésie raskolnique. Savez-vous combien on compte de raskolniks en Russie? Officiellement 5 millions, en réalité 11 millions. Vous voyez que cela vaut la peine qu'on en parle, et cela avec d'autant plus de raison que ces 11 millions d'hommes qui vont chaque jour augmentant sont appelés infailliblement, à mon avis, à jouer un certain rôle social dans l'avenir. Les Raskolniks se divisent en une quantité de sectes les plus opposées les unes aux autres et qui tombent dans des idées de plus en plus absurdes. La plus absurde, mais on peut dire la plus terrible de ces sectes, est celle des Skopsi. Elle croit à l'existence terrestre de Jésus, de sa Sainte Mère et de Saint Jean Baptiste. Sous le règne de l'empereur Paul, cette secte prit un grand accroissement. Elle avait dans un paysan son Christ, dans une femme du peuple sa Marie, et dans un moujik féroce son Saint Jean Baptiste. Seulement, son baptême était bien le baptême de sang. Il consistait dans l'émasculation, et comme l'opérateur était un barbare, il faisait barbarement l'opération avec un fil d'arcal rougi au feu. Il mourait un adepte sur trois. Après le premier enfant mâle destiné à continuer le nom, on rendait l'homme impuissant et la femme stérile. Vis-à-vis de l'église Nameni, après la perspective Nevski, en face de l'embarcadère actuel de Moscou, il y avait une grande maison de bois aux volets toujours fermés. C'est dans cette maison que s'accomplissaient tous les mystères. On y venait adorer le Christ, qui, selon eux, est un premier fils de l'empereur Pierre, dont ils ont fait leur Dieu. Adoptant cette tradition populaire qu'après un premier enfant, Pierre III fut lui-même émasculé par un accident, il refuse la légitimité à Paul Ier, qu'il regarde comme un fils adultérin et un usurpateur. Quant à Pierre III, l'assassinat de Ropcha n'existe pas pour eux. Il a disparu seulement, mais il n'est pas mort. Il redescendra sur la terre et ce sera le jour du règne glorieux. Vous le voyez, c'est quelque chose de pareil au Messie des Juifs. Les jours de réunion, et nous avons dit que les réunions avaient lieu dans cette grande maison au volet fermé, leur Christ, fils de Pierre III et Dieu comme Pierre III, se tenait assis sur un trône, ayant près de lui sa mère, la Vierge Marie. Ils entraient et se prosternaient devant le Christ. Puis la Vierge se levait et leur faisait un discours, leur recommandant d'être purs et attachés à leur culte. Ensuite commençait le festin qui consistait exclusivement en fruits, légumes et laitages. La viande, le poisson, tout animal ayant vécu, enfin, leur sont absolument défendus. Parfois cependant, et dans certains cas hygiéniques, on pouvait manger du poisson, mais cru, pour ne pas allumer le sang. Après le festin commençait le stradi, dérivé du verbe strada, qui signifie « souffrir le martyr ». Le mot stradi est un vieux mot oublié et dont les savants se souviennent seuls. Le stradi était une danse lente et calme d'abord, qui, pareille à celle des derviches tourneurs ou plutôt tournants, devenait peu à peu frénétique et enveloppait le trône du Christ et de sa mère de cercles toujours plus rapides. Cette danse finissait d'habitude par l'évanouissement du danseur qui trouvait à l'accomplir dans toutes ces périodes du plaisir mêlé d'angoisse inouïe, le tout à la plus grande gloire de Dieu. De là le mot stradi. Au milieu des danses se faisaient les opérations. Paul Ier eut connaissance de cette secte et voulut voir le Christ. Il appela chez lui le moujik qui jouait le rôle de Jésus. Il vit un fanatique, croyant lui-même à son extraction divine et convaincu de son droit, non seulement à la couronne céleste, mais encore à celle de toutes les Russies. Paul exila le Christ et Marie en Sibérie et Saint Jean-Baptiste dans le gouvernement d'Olonets. Comme le Christ et Marie, dévorés par cette effroyable distance qui rend si rarement ce qu'elle a pris, ne reparurent jamais, les Skopsi les crurent monter au ciel et ils attendent leur retour. Quant à Saint Jean-Baptiste, ses adeptes eurent la satisfaction de ne pas le perdre de vue, le gouvernement d'Olonets étant voisin de celui de Saint-Pétersbourg. Il mourut et fut enterré dans le gouvernement d'Olonets, où est sa tombe. Les sectaires viennent en pèlerinage à cette tombe et emportent en s'en allant des morceaux de pierre du tombeau ou des portions de la terre qui l'entoure. Ils réduisent en poudre cette terre ou cette poussière et la prennent délayée dans de l'eau lorsqu'ils sont malades. On ne remarque point qu'il en meurt un plus grand nombre que des orthodoxes traités par les médecins de la localité. Le tombeau étant lieu sacré, les opérations s'y font pendant la nuit. Cette secte que la justice poursuit est très riche. La justice en Russie est comme Atalante. Elle s'arrête quand on lui jette des pommes d'or. Presque tous les Méniati sont Scopsi. On appelle l'échangeur Méniati, du mot Méniat qui veut dire changer. Ces Méniati accaparent tout l'or et tout l'argent du royaume. De là vient la rareté de ces deux métaux. Comme leur religion leur défend tout excès de table, comme leur situation leur défend l'amour, ils vivent sans faire aucune dépense et, exempts de toute passion, amassent presque toujours des fortunes colossales. Ils agissent ainsi non seulement par amour du gain, mais encore pour avoir tout l'argent le jour où viendra le règne glorieux, c'est-à-dire le jour où la Sainte Famille redescendra sur la terre. Le Scopets, singulier de Scopsi, a en horreur l'étranger, mais il a peut-être encore, dans une horreur plus grande, ses compatriotes orthodoxes. Tout ce qui est touché par un étranger s'appelle pogonii, c'est-à-dire souillé. Nous avons dit que les Raskolniks se divisaient en plusieurs branches. Nous aurions dû dire dans les branches les plus opposées. Au nombre des sectes qui font un contraste complet avec les Scopsi est la secte de Tatarinov. Tatarinov était un conseiller d'État, ayant le rang de général de brigade. Il était le chef de cette secte. Une prophétesse réunissait les adeptes chez elle et se faisait appeler Mère du Christ. Après plusieurs initiations, on était reçu en faisant deux serments, celui de ne jamais rien révéler et celui de rester toujours garçon. Les femmes, de leur côté, juraient de ne jamais se marier ou, si elles y étaient forcées par leurs parents, de rester affiliées à la secte. Après la réception, on éteignait les lumières et l'on se prenait au hasard. Voici comment la chose fut révélée. Un jeune homme nommé Aprilef, dont le frère était ministre en second, se maria malgré le serment fait à l'association. Polov, un autre initié fanatique, dont la mère avait fait deux fois le voyage de Jérusalem à pied et en mendiant, quoique femme d'un colonel, se cacha un soir derrière la porte de la chambre nuptiale et frappa Aprilef d'un coup de poignard en disant « C'est moi !» Aprilef tomba roide mort. Polov n'avait même pas essayé de fuir. Arrêté, enfermé dans la forteresse, Polov fut soumis à l'ancienne question des brodequins et condamné à mort. Un vieillard qui était depuis 55 ans dans la forteresse, cela se passait en 1812, je crois, dit à l'un de mes amis que c'était la seconde fois seulement dans l'espace d'un demi-siècle qu'il avait vu appliquer la torture. La première fois, c'était à Mirovitch, qui avait voulu enlever le jeune Ivan. Nous vous raconterons cette histoire en allant à Schlüsselbourg. Polov n'eut pas la force de supporter la question. Il avoua tout dénonça la société qui fut dispersée dans différents couvents. Tatarinov et la prophétesse disparurent. En Russie, comme à Venise, on disparaissait. L'empereur Alexandre II a déclaré que son règne, il n'en serait pas ainsi, et que tout coupable, quel qu'il fût, serait jugé publiquement. Tatarinov avait deux filles qu'il avait forcées d'entrer dans la société, les livrant ainsi à ce luxurieux communisme. Ne vous semble-t-il pas que je vous raconte un épisode des bacchanales antiques, que je soulève un coin du voile qui couvrait les mystères de la bonne déesse? Voyez plutôt, nous empruntons une page à Michelet, entre guillemets. Un Titus Sempronius Rutilus avait proposé à son beau-fils, dont il était tuteur, de l'initier au mystère des bacchanales qui, de l'Étrurie et de la Campanie, avait passé dans Rome. Le jeune homme, en ayant parlé à une courtisane qu'il aimait, celle-ci parut frappée de terreur et lui dit qu'apparemment sa belle-mère et son beau-père craignaient de lui rendre compte et voulaient se défaire de lui. Il se réfugia chez une de ses tantes et fit tout savoir au consul. La courtisane, interrogée, nia d'abord, craignant la vengeance des initiés. Puis elle avoua. Ces bacchanales étaient un culte frénétique de la vie et de la mort, parmi les rites duquel prenaient place la prostitution et le meurtre. Ceux qui refusaient l'infamie étaient saisis par une machine et lancés dans des caveaux profonds. Hommes et femmes se mêlaient au hasard des ténèbres, puis couraient en furieux au Tibre, y plongeaient des torches ardentes qui flambaient en sortant des eaux, symbole de l'impuissance de la mort contre la lumière inextinguible de la vie universelle. L'enquête fit bientôt connaître que dans la seule ville de Rome, 7000 personnes avaient trempé dans ces horreurs. On mit partout des gardes. La nuit, on fit des perquisitions. Une foule de femmes qui se trouvaient parmi les coupables furent livrées à leurs parents pour être exécutées dans leur maison. De Rome, la terreur s'étendit dans l'Italie. Les consuls poursuivirent les informations de ville en ville. Eh bien, ces sectes, au lieu de s'éteindre, font tous les jours de nouveaux prosélytes en Russie. À Moscou, nous reviendrons sur ces Raskolniks qui, nous le répétons, font dans la population totale de toutes les Russies un chiffre de 11 millions.